Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'humanité est-elle en train de creuser sa propre tombe ? Industrialisation et réchauffement climatique, déforestation, extinction des espèces, population mondiale en expansion, inquiétude quant à l'alimentation dans les décennies à venir et de l'accès à l'eau potable. Bref, vous l'avez compris, l'avenir ne semble pas très joyeux. La question est la suivante, sommes-nous encore disposés à provoquer un revirement de situation, de passer d'un cercle infernal à un cercle vertueux ? Pour en parler avec nous, Jacques Blamont nous a rejoint en studio. Professeur, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes membre à l'Académie des sciences en France, mais également aux États-Unis et en Inde. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 6 et vous êtes actuellement conseiller du président du Centre national d'études spatiales, autrement dit le CNES, dont on a d'ailleurs fêté les 60 ans il n'y a pas très longtemps. Cette émission au fil des pages est consacrée à votre livre « Lève-toi et marche », question-réponse avec le théologien et historien des sciences Jacques Arnoux, qui travaille également au CNES, et donc livre paru aux éditions Gilles Jacob en août 2009. Livre qui, je le précise, est la prolongation d'un précédent ouvrage, « Introduction au siècle des menaces » en 2004. Pourquoi ce titre « Lève-toi et marche », professeur Blamont ?
J'ai proposé ce titre aussi bien à Jacques Arnoux qu'à l'éditeur pour, donner l'impression qu'il faut agir. C'est un appel aux puissances spirituelles, s'il en existe dans notre monde, afin qu'elles interviennent dans une évolution qui me paraît amener, sans qu'on puisse l'arrêter, à une déflagration générale au milieu du siècle.
Faire appel à une puissance spirituelle pour l'athée que vous êtes ?
Oui, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucune possibilité d'action autre que sur, les forces spirituelles qui existent tout de même dans le cœur de l'homme. Alors, je m'explique, on peut imaginer que pour empêcher, l'aggravation de la situation, on utilise des moyens techniques. En effet, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers l'humanité, se dirige vers des difficultés extrêmement graves ? Eh bien, c'est que sa manière d'utiliser les ressources naturelles amène à les épuiser dans les 50 prochaines années. Donc, on se dirige vers des pénuries générales. Et ces pénuries, on peut en faire la liste, pénuries en alimentation, en eau, en énergie, en terres arables, c'est déjà pas mal, mais en même temps, ça s'accompagne d'une attaque vigoureuse de l'homme contre la nature en général, c'est-à-dire contre la diversité aussi bien animale que végétale. Et donc, il est vraisemblable que nous allons nous retrouver dans des pénuries multiples dont les effets toxiques se multiplieront les uns les autres. Alors, on peut imaginer, au fond, trois catégories d'attitude pour essayer d'arrêter la course à l'abîme. Alors, la première consiste à utiliser la science, la technique, avec l'idée très répandue qu'on s'en tirera, que l'homme est assez intelligent, assez inventif, assez créatif pour trouver des solutions techniques. On a bien trouvé des solutions techniques au problème de l'énergie ou au problème, par exemple, de l'alimentation qui a été véritablement résolu au cours des années 60 par ce qu'on a appelé la révolution verte, qui était essentiellement l'introduction de moyens techniques. Donc, première solution, technologie. Quelqu'un trouvera une grande invention qui permettra de résoudre les pénuries.
Pardon, je vous interromps, mais dans votre livre, vous faites aussi vous expliquez également qu'il y a la peur de la science, donc paradoxe. En même temps, on pense que la science va pouvoir résoudre tous nos problèmes, et en même temps, on en a peur.
Oui, j'allais y venir d'ailleurs, n'importe comment, oui.
Quel est le deuxième point ? Vous avez parlé des trois attitudes.
Alors, la seconde attitude, c'est la gouvernance, c'est-à-dire l'établissement d'un ordre mondial qui serait réglé par des moyens politiques. l'établissement, par exemple, d'une super Nations Unies ou une super Union européenne qui permettrait de répartir les pénuries entre les différents demandeurs. Et l'une et l'autre de ces solutions, la solution par la science ou la technologie et la solution par la gouvernance, me paraissent hors de portée. La solution par la technologie est a priori simplement absurde, puisque n'importe comment, ce dont nous souffrons, c'est un excès de, je ne dirais pas de technologie, mais un excès dans notre philosophie productiviste, qui consiste à exploiter à fond les richesses naturelles pour les consommer, et avec une grande efficacité grâce à notre technologie, à ses progrès. C'est cette voie qui nous est en train de nous amener au désastre. Et donc, si on la suit encore plus, eh bien, on ne peut rien faire. Plus de technologie ne peut pas guérir les maux créés par trop de technologie. Ça, c'est la première voie. La seconde voie est donc celle de la politique. Je n'ose pas vous dire ce que je pense.
Est-il réellement du rôle des politiques ?
Oui, parce que la politique, ça veut dire, politique, ça signifie la gestion de la cité. Et la cité prise dans son terme noble, ça veut dire au fond toute l'humanité. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on fixerait des règles, qu'il y aurait une sorte de parlement et d'un gouvernement mondial qui fixerait des règles qui permettraient une évolution plus en douceur, en évitant les gaspillages, etc. Par exemple, on peut imaginer une autorité mondiale qui supprimerait les automobiles, par exemple. Une autorité mondiale qui supprimerait les vieillards après 85 ans. Enfin, je vous donne des exemples à provoquant naturellement exprès. Enfin, je pense que je me fais comprendre. Je ne crois pas à la possibilité de l'établissement d'une gouvernance mondiale. Je crois au contraire que les pénuries qui vont s'exaspérer vont amener des conflits. Et ces conflits sont dus aux mœurs, en particulier, d'abord non seulement aux pénuries, mais en plus aux mœurs, c'est-à-dire au fait extrêmement important pour moi que l'humanité est en train de quitter les campagnes pour s'entasser dans les villes. En 2060, on estime que 80% de la population mondiale sera entassée dans des villes. À ce moment-là, la population comptera à peu près 9 milliards à 10 milliards d'habitants, et aujourd'hui 6. Donc les 3 milliards qui vont s'ajouter à l'humanité entre aujourd'hui et 2050, par exemple, je prends 2050-2060 comme juste simplement un repère, vont s'installer dans des villes, mais ils vont s'installer dans des bidonvilles et non pas dans des villes. Ça, c'est une tendance générale. Je reviens d'Inde, par exemple, et où j'ai vu la ville de Bombay, qui s'appelle maintenant Mumbai d'ailleurs, la capitale économique de l'Inde, qui compte 18 millions d'habitants. J'ouvre le journal et je lis que 54% des habitants de Bombay habitent dans un bidonville.
Donc 54% des 18 millions d'habitants.
Exactement, ça fait une bonne dizaine de millions de gens qui sont dans un bidonville. Okay. Et ceci est général, c'est pas seulement en Inde, c'est aussi en Afrique, où vous avez des villes comme Lagos ou Kinshasa ou le Caire, comme en Amérique, où vous avez des villes comme Lima ou Mexico City, qui sont des gigantesques bidonvilles. Et donc, il me semble que les mœurs de ces bidonvilles amèneront les gens à la révolte. Et non pas au gouvernement mondial. Et je crois que le facteur principal qui les amène vers la révolte, c'est la télévision.
Alors, ma foi, vous avez pratiquement résumé les totalités de votre livre,
oui.
Si je ne vous avais pas arrêté. Justement, dans votre ouvrage, vous avez deux chapitres. Chapitre la violence et chapitre méchanceté. Méchanceté qui paraît un peu curieux, j'espère que vous en parlerez dans quelques instants. Venons-en donc à la violence. Vous avez établi trois ordres de violence naturelle.
Oui,
la télévision, vous en parliez à l'instant.
Oui, je crois que dans ces grandes mégapoles, la violence se développe. Elle se développe par trois facteurs. Le premier, c'est l'échec du développement, c'est-à-dire la pauvreté. Le second, c'est...
Les messages médiatiques.
Ce sont les messages médiatiques, exactement, qui sont des facteurs de violence, ou plus exactement, des facteurs qui créent la jalousie et la violence à la fois. La jalousie, pourquoi? Parce qu'au fond, il y a deux catégories de messages médiatiques, télévisés, qui arrivent jusqu'à des pauvres gens, des gens pauvres, vraiment pauvres, dans les bidonvilles africains ou asiatiques. L'un, ce sont des messages à l'eau de rose, c'est-à-dire le prince charmant, et puis une charmante histoire d'amour, qui se passe dans un décor hollywoodien, c'est-à-dire luxueux, par rapport aux conditions de vie des bidonvilles. Et les autres catégories de messages sont des messages de violence, messages de guerre, des messages de ce qu'on appelle des brigands, des gendarmes et voleurs.
On active les tensions petit à petit.
Oui, et donc l'ensemble de ces deux catégories de messages aboutit à l'idée du petit jeune homme qui regarde son écran. Pourquoi eux et pas moi? Et ça, c'est mon second facteur de violence. Le troisième facteur, c'est la jeunesse.
C'est la jeunesse.
C'est la jeunesse des pays en développement, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, ou en Amérique en général, que ce soit le Mexique ou l'Amérique du Sud. Nous avons dans toutes ces régions du monde des taux de natalité extrêmement importants et une augmentation de la population considérable qui contraste avec la stagnation de la population des pays développés, sauf les États-Unis. Et donc, tous ces jeunes gens qui ont l'âge de la guerre n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail. En général, on a des taux de chômage très importants. Alors, je vous prends l'exemple, par exemple, de l'Algérie. Quand vous avez 20 à 25% de la jeunesse qui non seulement n'a pas de travail, mais en plus n'a aucune chance, et le sait, d'en avoir jamais. On se trouve dans une situation de désespoir qui amène à la violence.
Dans votre ouvrage et le chapitre consacré à la violence, vous précisez, donc, vous donnez ces exemples effectivement de l'Algérie et également d'un autre pays, vous parlez que la violence ne semble pas contrôler l'évolution, parce que vous parlez donc du rapport entre la violence et l'évolution, donc je reprends, une violence qui ne semble pas contrer l'évolution, mais bien plutôt l'accélérer. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée?
Oui, c'est-à-dire que toute cette violence, elle aboutit à la création de forces, ce que j'ai appelé des forces horizontales, c'est-à-dire des bandes, Al-Qaïda est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. En général, des mouvements que j'appellerais, je n'aime pas le mot terroriste, que j'appellerais activistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à perdre et qui se regroupent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de chef charismatique, mais ça va arriver, ils trouveront un calife. Ça va arriver certainement. Mais ils sont donc une force. Ils sont donc une force, ça joue sur l'évolution.
Vous parlez de la violence, vous avez aussi un chapitre consacré à la méchanceté. Ça peut paraître un peu curieux de voir apparaître le terme de méchanceté en chapitre.
Oui, c'est-à-dire que j'ai utilisé le mot méchanceté pour frapper le lecteur en utilisant au fond un vocabulaire 17e ou 16e siècle. C'est vrai, ce que je crois, c'est que, comme le disaient les moralistes, l'homme est méchant. Et donc, et c'est à partir de cette méchanceté profonde que la civilisation est construite. Elle est construite en général pour la contrôler, cette méchanceté. Mais ce qui s'est produit au XXe siècle, c'est que cette méchanceté n'a pas tellement été contrôlée qu'elle est devenue un moteur, parce qu'elle s'est mariée avec la technologie, avec l'industrie, pour fabriquer une méchanceté d'un genre nouveau.
Une machine à tuer.
Une machine à tuer. Alors j'en ai donné un certain nombre d'exemples, mais enfin celui auquel je tiens le plus, ce sont les fermes industrielles. C'est ça qui me paraît le plus fort exemple qui montre bien la méchanceté humaine. Où à l'heure actuelle, mettons une vingtaine de milliards d'animaux sont traités vraiment d'une façon atroce, et on trouve ça normal.
Oui, vous précisez d'ailleurs, parce que les chiffres nous permettent de donner une idée, vous précisez donc que 20 milliards d'animaux élevés pour leur viande, si vous les mettez bout à bout, ça représente 500 fois la distance entre la Terre et la Lune, je crois.
Oui, quelque chose dans ce goût-là, et n'importe comment, tous les ans, il y a une nouvelle chaîne.
Tous les ans, il y a une nouvelle chaîne.
Oui, et donc, ceci est en train de grandir considérablement parce que la consommation de viande augmente considérablement. Alors, j'ai donné d'ailleurs une courbe qui montre l'augmentation de la consommation de viande. Et c'est assez extraordinaire parce que personne ne le sait, que la consommation de viande augmente non seulement dans nos pays développés, mais surtout dans les pays émergents ou les pays en voie de développement. J'ai cité le cas du Maroc, des Philippines, ou la quantité d'animaux qui est mis en batterie et dans des conditions assez pénibles pour eux augmente très rapidement. Et donc, effectivement, l'homme est méchant. Et cette méchanceté est en train de se traduire de deux manières. Parce que cette violence dont nous avons parlé, il y a deux catégories de violence. Il y a la catégorie des foules, appelons-la la catégorie horizontale, la catégorie des groupes activistes, etc. Et la violence des États. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons une violence des États qui est, à l'heure actuelle, en train de devenir incontrôlable parce que beaucoup d'États se dotent d'armes de destruction massive. Alors, pour l'instant, nous faisons un peu peur avec l'acquisition de bombes atomiques par des gouvernements qui ne nous paraissent pas très stables, comme celui du Pakistan. Mais il y a d'autres armes de destruction massive qui sont bien plus faciles à fabriquer que les bombes atomiques et qui sont les armes biologiques,
les virus,
qui n'ont pas encore été véritablement, qui n'ont pas attiré l'attention des gouvernements, ou du moins, si elles ont attiré, ça n'a pas été très loin, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de passages à l'acte. Il y en a eu, le gouvernement japonais est passé à l'acte contre les Chinois avant la guerre, mais c'est l'exception. Mais rien n'empêche que ce soit les groupes activistes qui peuvent se procurer, fabriquer, développer des armes biologiques, ou que ce soit des gouvernements mis au banc de l'humanité. Il y en a, par exemple, la Corée du Nord, et à l'heure actuelle est considérée comme un État en dehors de l'ordre mondial. Donc, que ce soit les uns ou les autres, on doit s'attendre au développement d'armes de destruction massive qui seront mises à la disposition de la violence étatique, c'est-à-dire de la méchanceté humaine. Et donc, c'est pour ça que j'ai employé le mot méchanceté, c'est justement parce qu'il a une certaine connotation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un certain jugement que l'on porte quand on dit méchant. Et donc, il me semble que le problème, comme je dis à un moment ou à un autre, est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que cette méchanceté est le centre même du problème, c'est d'elle que découle la violence, c'est d'elle que découlent tous les comportements prédateurs de l'Homo sapiens aujourd'hui. Et donc, c'est pour faire comprendre cette dimension, disons, du cœur, que j'ai employé tout ce vocabulaire.
À vous entendre, on a l'impression qu'on, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on est mal barré, hein.
Oui, c'est ce que je pense, effectivement. Mais c'est pour ça que j'ai écrit un livre de 500 pages il y a 5 ans, Introduction au siècle des menaces, où je conclus que nous allons effectivement vers ce que j'ai appelé, je n'ai pas voulu employer de mots trop grandiloquents, une singularité dans l'histoire de l'homme, et que ma conclusion c'était « il n'y a rien à faire ». Et donc c'est ça qui a irrité le père Arnoux, et donc il m'a dit « essayez donc de sortir de ce « il n'y a rien à faire », et donc on a essayé de proposer quelque chose, mais cette proposition donc est d'ordre spirituel.
Et on va y venir. Parmi les choses qui, justement, j'aimerais avoir votre avis, tout en le connaissant un peu pour avoir lu le livre, on se dit qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qui changent. On parle beaucoup du développement durable. Le développement durable, dans votre livre, vous expliquez que c'est pas si durable que ça, en fait.
Il y a une confusion dans le mot développement durable qui a été inventé par Madame Brundtland en 1987. Parce qu'on parle de deux choses à la fois. Il y a d'une part le problème des atteintes apportées par le développement à l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, on peut se dire qu'il vaut mieux avoir une maison qui ne dépense pas beaucoup d'énergie et qui n'en dépense pas du tout. Et ça me paraît une démarche saine, c'est-à-dire le développement qui permet des économies, disons un développement au moindre coût. Et effectivement, on peut faire des économies dans l'ensemble de toutes nos activités. On peut, disons, se déplacer à bicyclette et non pas en voiture. On peut avoir des maisons bien construites. On peut ne pas faire venir des fleurs en avion. Il y a toute une série de, disons, de comportements.
Du bon sens, en fait.
De bon sens, c'est du bon exactement. Appelons ça de père de famille. Et contre cette acception du développement durable, il n'y a rien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on parle de développement durable pour l'ensemble des comportements humains. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on parle, le discours actuel, c'est « faisons du développement durable dans le premier sens que j'ai indiqué et tout ira bien ». Bon, moi je dis que le problème principal n'est pas là. Si on économise 80% de notre énergie, par exemple, eh bien, ça signifie que la catastrophe sera reculée de 10 ans. Ou de 15 ans. Mais ça n'empêche pas le fait que même si on éteint la lumière de la cuisine, eh bien, il n'y aura plus du tout de pétrole en 2075. Plus du tout. Alors, si ce n'est pas 75, ce sera 80, mais enfin, disons que bien avant la fin du siècle, il n'y aura plus du tout de pétrole. Alors, pourquoi est-ce que... Comment on va faire ? Alors, à ce moment-là, on propose des solutions absurdes comme les carburants biologiques.
Les alternatives, en fait. Essayer de trouver des alternatives qui pourront essayer de repousser
l'échéance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative technique. Et donc, quand on parle de développement durable pour parler de développement de l'humanité, eh bien là, c'est une illusion. Et donc, vous voyez qu'il y a une confusion très importante entre notre comportement quotidien et aussi le comportement général de l'humanité. Notre comportement quotidien, eh bien, on peut le modifier, mais ça ne changera rien au problème général. Je vous donne par exemple un chiffre. La consommation d'énergie de la France est de 1,5% de la consommation totale d'énergie dans le monde. Et la consommation d'énergie de l'Europe, en 2030, sera de 7%. Donc ça signifie, quand vous êtes à 1,5% ou vous êtes à 7%, ça signifie que quoi que vous fassiez, ça n'a aucun impact sur le reste du monde. Alors vous allez me dire, mais alors tout le monde va faire la même chose. Donc à ce moment-là, vous tombez sur un problème de conviction, et ce que j'appellerais de changement de paradigme de l'humanité. Cette conviction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ni des facteurs techniques, ni des facteurs politiques, qui l'amèneront.
Alors, venons-en à un autre chapitre, et la religion, hein, l'aspect spirituel. Quel est le lien avec l'aspect spirituel ? C'est justement ce changement de conviction dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire que c'est aux hommes de changer leur manière de vivre, leur mentalité, d'être moins individuel.
Oui, changer la mentalité, comment on peut faire ? Je crois que c'est très très difficile. Très très difficile, nous avons des civilisations qui ont des traditions, et ces traditions... pour les modifier, on ne sait pas vraiment comment faire. Il nous a semblé que cette modification profonde des comportements ne pouvait s'obtenir, qui est nécessaire puisqu'il s'agit d'obtenir un comportement non plus de prédateur, mais de conservateur de la nature. Ça veut dire donc une culture de la frugalité.
Modérer sa consommation.
La modérer très fortement, c'est-à-dire plus d'automobiles, ça veut dire plus de vacances, ça veut dire un changement total de notre mode de vie.
Et vous êtes d'accord que c'est ce que vous dites, c'est impossible.
Oui, c'est ça le problème. C'était pour ça que j'avais conclu qu'il n'y avait rien à faire. C'est que c'est impossible. C'est ça qu'il faut et pourtant c'est impossible. Alors c'est pour ça que nous avons pensé que la seule solution, je ne dis pas que ça va marcher, hein, la seule solution c'est de s'adresser à ce que nous avons appelé des spécialistes du spirituel. Vous remarquerez que vous m'avez dit en commençant que vous étonniez qu'un athée comme moi s'intéressait à la religion comme solution. Eh bien, c'est que ces spécialistes du spirituel, on peut imaginer qu'ils soient assez malins et assez organisés pour modifier véritablement ce que pensent les gens et par exemple, les convaincre qu'il ne faut pas avoir d'enfants, par exemple. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire.
En général, ce n'est pas ce qu'on dit.
Mais oui, mais exactement. C'est là où on touche la difficulté. Vous avez dit, c'est impossible. Alors, si on veut aller au-delà de cette impossibilité, à ce moment-là, il faut s'adresser à des gens très forts. Il faut avoir des gens très forts. Alors, pour les gens très forts dont je parle, il faut que ça soit non seulement des spécialistes du spirituel, mais en plus, il faut qu'ils soient structurés. qu'il y ait une organisation, qu'ils aient des troupes, qu'ils aient aussi dans ces troupes, ça veut dire qu'ils ont des généraux, des officiers, des soldats. Et donc, c'est pour ça que finalement, en dernière analyse, moi j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une seule structure qui correspondait à peu près à cette définition, c'est l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est la seule, je suis totalement athée, je suis en dehors de toutes les églises, je n'ai jamais eu aucun contact avec les ecclésiastiques, j'ai des ecclésiastiques parmi mes amis, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais il me semble que l'Église catholique, c'est une structure qui a un chef et des troupes. Et donc, si l'Église catholique prenait position en rassemblant, d'autres églises, en rassemblant aussi d'autres forces que j'appellerais intellectuelles, spirituelles, culturelles, elle pourrait déclencher un mouvement. Ce mouvement devrait aboutir à l'écriture d'une sorte de charte que nous avons appelée le petit livre rouge, charte du comportement, et non seulement charte du comportement, mais aussi charte de la voie à suivre. Et cette charte pourrait être proposée au gouvernement, aux différents gouvernements du monde, pour application. Et une des idées que j'avance dans le livre, c'est la création dans tous les pays de services civiques, où les jeunes gens seraient embrigadés. Alors vous allez me dire, ce sont les gardes rouges, et vous comprenez bien que je suis parfaitement conscient de l'extrême difficulté de cette démarche. Bon, donc voilà un peu l'idée, c'est qu'il faut avoir une structure, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui disent ce que nous disons, c'est-à-dire il y a des dangers. Ces dangers exigent qu'il y ait un changement de comportement de l'humanité. Mais ces gens-là qui disent ça ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de troupes. Et ce sont finalement des isolés, pleins de bonne volonté. Et le résultat, eh bien, ce sont les échecs des partis verts, par exemple. Et d'autre part, l'extrême isolement et le manque complet d'influence que ont les gens qui font de la propagande pour ce qu'ils appellent, et ce que j'appelle à leur suite, le dédéveloppement.
Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que des gens comme Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, qui sont des gens médiatiques et qui prônent une frugalité aussi, hein, comme vous, alors ferait-il mieux d'être prêtre pour avoir plus d'écoute et avoir plus d'impact ?
Oui. Oui, je crois que les gens dont vous parlez, les personnalités médiatiques, ne vont pas loin. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire auprès du gouvernement chinois ? Qu'est-ce que ces gens-là vont faire auprès du gouvernement indien ? Le gouvernement chinois et le gouvernement indien, qui représentent à l'heure actuelle 2,5 milliards de personnes, c'est-à-dire 40% de la population mondiale, n'ont pas la moindre intention de modifier leur plan pour le développement. Et donc, le problème, c'est d'arriver à convaincre ces gens-là de changer leur politique. Et je ne vois pas du tout la capacité de personnes isolées, même si elles ont accès au poste, d'avoir la moindre influence autre que verbale sur la plupart des gouvernants. Vous voyez, par exemple, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discours de nos gouvernants européens sur ce genre de sujet, et toute leur réponse est taxatrice, c'est-à-dire on va mettre des impôts.
Alors, vous faites référence à la fameuse taxe carbone, par exemple ?
Oui, il y a la taxe carbone, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la prime à la casse, il y a beaucoup d'impôts ou de propositions d'impôts qui sont faites. Je ne crois pas que ça change les comportements en profondeur. Le résultat de ce genre de choses est sans doute bon pour la première acception de mon développement durable. C'est-à-dire que ça permettra effectivement de vivre plus économiquement.
Toujours dans une logique productiviste, comme vous expliquez à l'instant.
Oui, oui.
Je vous ai interrompu, veuillez m'excuser, mais comme justement vous parlez des gouvernants, vous citez Jean-Claude Juncker dans votre livre.
C'était
Jean-Claude Juncker,
oui.
Donc le Premier ministre luxembourgeois. Donc vous recitez ses propos, hein, je me permets hein, de lire.
Prie.
Nous savons tous très bien ce qu'il faut faire. Il parle bien sûr de la préservation de la biodiversité.
En général,
voilà.
En général.
Nous savons tous très bien ce qu'il faut faire, mais ce que nous ne savons pas, c'est nous faire réélire après avoir agi. Donc en fait, on est confronté à un problème de taille qui est que les gouvernants ou les hommes politiques ont toujours ce souci de plaire. Donc en mettant de nouveaux impôts, comme vous le disiez à l'instant, le souci c'est d'après de ne pas se faire réélire.
Oui, mais c'est là où on aboutit à des paradoxes comme la taxe carbone, où on promet aux contribuables qu'il va payer quelque chose, mais qu'il va recevoir l'argent de notre côté. Alors naturellement, c'est un tour de passe-passe amusant et on peut féliciter l'artiste pour ce genre de, disons de mesure. Mais ce n'est pas ça qui va véritablement changer les comportements. Je prends l'exemple des pêcheurs, par exemple. Qu'est-ce que nos gouvernants font pour empêcher l'épuisement complet des stocks halieutiques ? Eh bien, simplement, ils disent qu'il ne faut pas obéir aux quotas, c'est-à-dire justement d'épuiser ces stocks. Ceci, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas déplaire, parce que ce qu'il faut faire, ça déplaira. Quand je parle de frugalité, eh bien, j'ai donné quelques exemples assez durs, comme ne plus avoir d'enfants, terminer les vies quand les gens sont réduits à l'état de légumes, hein, par exemple, enfin, on peut en trouver beaucoup d'autres. La plupart des mesures à prendre pour essayer d'amener cette frugalité sont impopulaires. Elles sont si impopulaires qu'elles ne sont pas applicables. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas à la solution par la gouvernance. Parce que les hommes politiques n'ont pas les moyens, même s'ils sont convaincus, ils n'ont pas les moyens d'imposer à des populations qui se rebelleront des mesures violentes. Des violentes, quand je dis violentes, ça ne veut pas dire qu'on leur tape dessus. Ça veut dire qu'on les prive de quelque chose à quoi ils sont très attachés, soit en superflu, soit en nécessaire.
Alors, on ne peut pas parler de tout. Hein. Votre livre est très dense. J'invite les auditeurs à lire votre livre et ils se feront aussi leur propre opinion. Précisons que donc, c'était quand même sous forme de questions-réponses avec Jacques Arnoux et que vous échangez. C'est un réel débat. Hein. Donc, il y a vraiment un échange d'idées.
Mais nous avons essayé d'être légers, pour traiter des problèmes extrêmement graves, pénibles et angoissants d'une façon qui ne choque pas le lecteur.
D'accord, tout en ayant certaines phrases un peu provocatrices, mais c'est normal,
il faut
se tenir un peu en haleine.
Il y a des provocations, naturellement.
Terminons, si vous le voulez bien, une fois n'est pas coutume, par le prologue. C'est vous qui l'avez bien sûr rédigé. Et vous faites référence à une de vos toiles, puisque vous peignez, et vous l'avez intitulée « Notre-Dame du développement durable », encore ce fameux développement durable. Comme vous en êtes l'auteur, pourriez-vous me décrire, pourriez-vous nous décrire cette toile ? Et pourquoi l'avoir mis en prologue ?
C'est une toile que j'ai peinte il y a maintenant 3 ans, et qui n'avait aucune prétention à fournir un message. C'était simplement le désir de réaliser quelque chose de plastique. Et donc, dans ce tableau, il est parti d'un couple qui est une sorte de vierge, de Sainte Vierge, qui est en fait une nonne, et qui tient un enfant Jésus dans ses bras. Mais cet enfant Jésus, il est assez spécial.
Oui, ça ressemble à un enfant africain qui est en train de mourir de faim.
C'est un enfant qui meurt de faim, c'est ça exactement, et qui est dans un état assez, disons, pitoyable. Et donc, c'est lui le centre de la toile. C'est-à-dire, ça, c'est l'humanité. Est-ce que c'est un sauveur ? Est-ce que c'est un rédempteur ? Est-ce que c'est un symbole de notre destin ? Je ne peux pas le dire. C'est venu comme ça. Et donc, j'ai entouré ce couple d'un certain nombre de détails, empruntés à la tradition picturale chrétienne de l'Europe. Il y a derrière cette vierge, il y a un âne et un bœuf. C'est pas un hasard, puisque tout le monde sait qu'il y a un bœuf et un âne dans une crèche. Et puis d'autre part, il y a des anges. Il y a des anges qui ont l'air triomphants, qui sonnent de la trompette, qui jouent de la flûte ou d'une sorte de petite harpe. C'est pour indiquer un certain contraste entre le triomphalisme dans notre culture et puis la réalité qui est dans ce petit enfant. Évidemment, pour appuyer un peu, j'aurais peut-être pas dû le mettre, mais enfin, je pensais que c'était tout de même nécessaire. Eh bien, dans le fond du tableau, on voit un incendie. Ce qu'il y a de bien dans le tableau, malheureusement, ça ne paraît pas dans le livre, ce sont les couleurs. Le fond est rouge. Le fond est rouge. Hein. Je trouve que le rouge est assez beau. Donc c'est un tableau qui est assez provocant. Il est assez provocant parce qu'il est ambigu. On ne sait pas exactement où est le message, là, puisque je vous dis, il n'y en a pas. Il veut faire réfléchir, il ne veut pas tellement faire réfléchir, il veut frapper.
À chacun de nous de voir ce que l'on veut voir,
de l'interpréter. Et ce qui m'a amené à... Je ne montre pas mes toiles, je me considère comme très mauvais, donc je ne les montre pas. Mais ce tableau, je l'ai montré à ma femme de ménage, qui sait à peu près ni lire ni écrire. Et ça lui a fait un effet tel qu'elle a pu plus dormir pendant plusieurs jours. Et je ne lui ai rien expliqué, je n'aime pas. Je pense que un tableau doit se passer d'explication. Et ça doit, disons, son existence suffit à son explication. Mais là, je dois avouer que je ne lui ai pas parlé à elle. Je ne sais pas pourquoi elle a été frappée. Enfin, elle a été frappée. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que ça serait intéressant de le mettre.
Et Jacques Arnoux a commenté aussi cette toile, puisque vous lui avez demandé de donner, en fait, tout simplement
son avis. Je lui ai envoyé, ça a été comme ça que notre livre a commencé. Je lui ai envoyé une reproduction et il a réagi d'une façon ambiguë, parce que le tableau est ambigu.
Eh bien, on va laisser les auditeurs se faire leur propre opinion en lisant le livre et puis en trouvant la reproduction en noir et blanc, malheureusement, au début de votre livre. Je redonne le titre « Lève-toi et marche, proposition pour un futur de l'humanité » paru aux éditions Odile Jacob en août 2009. Et donc, écrit par vous, Jacques Blamont, et également Jacques Arnoux. Merci de votre visite et puis, je l'espère, à bientôt pour un prochain ouvrage, peut-être un peu plus guilleret. À bientôt.
Merci beaucoup, mademoiselle.